RCF.
Musique.
Bonjour à tous et merci d'être fidèles à cette nouvelle émission Parole d'évêque en compagnie de Mgr Xavier Mal. Mgr, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez vécu hier une sortie des prêtres et des diacres à Mont-Dauphin, un moment fraternel ?
Oui, on fait ça maintenant chaque année, une sortie de fin d'année, comme les écoles, comme beaucoup d'institutions, une sortie de fin d'année pour les prêtres, les diacres et les épouses de diacres. Et alors, à la fois, on a eu du beau temps, à la fois, on a été un peu déçus parce que j'ai annulé la partie sportive. Vous savez, on propose toujours trois plans. Le plan A, c'est le plan sportif. Le plan B, c'est le plan pour tout le monde. Après, il y a la messe, le repas et une visite commune à tout le monde. Le plan A sportif, j'ai décidé de l'annuler lundi dernier parce que c'était la descente de la Durance en bateau, là. On appelle ça
en rafting. Oui.
Et que quelques jours avant, il y avait encore eu un accident. Alors, il y a déjà eu 3 morts les semaines d'avant. Bon, c'est vrai qu'en passant au-dessus de la Durance hier, on voit qu'elle est très, très. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de vagues.
Très agitée. Oui.
En plus, elle n'est pas très belle. Voilà. Et donc, j'ai préféré pas prendre de risque parce que je m'en serais voulu toute ma vie s'il y avait eu un accident. Voilà. Et donc, finalement, on a tous fait le plan B. C'était la visite de l'exposition. De l'artiste africain, du sculpteur africain Ousmane Cho, qui est à Mont-Dauphin, dans une des casernes de Mont-Dauphin, et qui est superbe. Moi, j'invite nos auditeurs à aller la voir. C'est le récit, on pourrait dire, en sculpture plus grande que nature, de la dernière grande bataille entre les Sioux, les Amérindiens et les Tuniques bleues. Voyez. Donc, c'est vraiment un travail incroyable de sculpture. Quoi. Voilà, très, très, très belle chose. Elle est là pour 10 ans encore, on attend d'aller la voir. Mais si vous êtes cet été dans les Hautes-Alpes avec les petits-enfants ou les enfants, je crois que ça leur fera plaisir. En plus, pour tout vous dire, j'ai acheté une BD après là-dessus, sur la dernière bataille, Little Big Horn.
Et
ça permet de mieux comprendre après encore
les choses. Le contexte, ouais. Oui.
Et puis l'après-midi, donc on a déjeuné dans un très bon restaurant, je recommande, le restaurant de Les Chauguettes, un jeune couple qui a repris ça en décembre dernier. Super accueillant, très bien servi, délicieux, leur cuistot est bon. Et puis après, on a fait la visite, on a célébré la messe avant, à l'église Saint-Louis, alors qui est une église un peu terrible au niveau acoustique. Vous savez qu'elle est construite qu'un tiers, il n'y a qu'un tiers qui a été construit. Après, d'une part, il n'y a plus de sous, d'autre part, il n'y a eu pas autant d'habitants dans la ville de Mont-Dauphin que ce qu'espérait Vauban,
oui.
En fait.
Mm-hmm.
Et il y en a 100 et quelques actuellement. Quoi. Donc l'église, elle n'est pas bien proportionnée pour avoir une bonne acoustique. Et donc c'est un peu terrible. Donc je ne l'ai même pas enregistré, mais j'ai mis l'homélie sur le site internet, au moins ma base papier. Quoi. Et puis après, on a visité la forteresse de Mont-Dauphin. On a été accueillis par la directrice du site. C'est un site national, fait partie des monuments nationaux. Et puis après, la visite par une guide. Alors, je l'avais déjà fait, moi, avec ma famille, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je ne sais plus. Mais à chaque fois, les guides sont différents, on apprend des nouvelles choses. Et puis, la répétition étant la pédagogie, on apprend des belles choses. En tout cas, si vous ne l'avez jamais fait, et c'est toujours ça qui me surprend, c'est que la plupart des prêtres n'ont jamais visité les choses du diocèse.
Oui.
Et c'est un peu classique, il faut profiter des visites des voisins ou de la famille pour visiter. Voilà, donc c'était une belle journée fraternelle et je crois que c'est important de cultiver la fraternité, le presbytérium. Dans mon homélie, je citais une parole du pape quand il a écrit à tous les curés du monde à l'occasion d'une rencontre de curés pour préparer le synode. Et il insistait sur la fraternité. Il interrogeait quelle est la qualité de la vie fraternelle de nos presbytériums. Et il disait que on ne peut pas être un bon père si on n'est pas d'abord un bon frère. Quoi. Et donc la fraternité entre nous, la fraternité entre prêtres et diacres, la fraternité avec l'évêque, etc. Voilà, donc une invitation et puis avec les paroissiens aussi, évidemment.
C'est le rôle d'un évêque aussi de parler de son diocèse et de l'aspect touristique aussi de son diocèse, parce que vous aimez cette géographie du diocèse.
Ah ben c'est clair que comme beaucoup, une fois qu'on est tombé dedans,
oui.
On aime ce diocèse, comme la potion magique d'Obélix, là. On aime ce diocèse, donc c'est un grand plaisir aussi de parler de ce diocèse. Alors cet été, je vais continuer un peu à y circuler, entre les pèlerinages en montagne, mais aussi normalement, s'il fait beau, je dois faire 2 sommets aussi. L'Aubiou, c'est entre le Dévoluy et l'Isère. Et puis, évidemment, le vieux Chaillol qui surplombe Gap encore et qui est magnifique, là. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai la force pour faire ça, parce qu'avec l'âge avançant, on a moins de force que quand on avait 20 ans quand même. Hein, et c'est quand même des vraies montées de plusieurs heures. Quoi.
Voilà. Le tout est d'y arriver, et peut-être à une vitesse peut-être un peu moindre.
Oui, voilà. C'est quand même des 3000 mètres pour l'un et un peu moins pour l'autre. C'est quand même une belle grimpette. Quoi.
C'est
un grand plaisir, un grand bonheur quand on arrive là-haut. Quoi.
Alors, Monseigneur, vous parliez justement de votre homélie lors de cette journée. Ça aborde le sujet des élections. Vous invitez les prêtres à aider les chrétiens à vivre cette période difficile, troublée.
Oui, les auditeurs peuvent aller voir un peu cette homélie là, sur le site internet. Et je me suis demandé un peu comment on pouvait aider nos chrétiens à vivre cette période. Donc, il y a un article aussi où j'invite à se former, à prier. Et c'est important de vivre ça dans la prière. Donc, vous avez à la fois la prière des évêques et la prière, moi, que j'ai proposée, c'est celle du missel pour le pays. Mais il me semble aussi qu'on doit développer la vie fraternelle, parce que je vois bien, on est tous un peu troublés par cette période, quoi. Hein. Certains sont un peu désespérés, et donc il faut vraiment que la vie chrétienne, c'est aussi la vie fraternelle. C'est un des 5 piliers de notre vie chrétienne, la vie fraternelle. Donc j'invite les curés à développer ça. Alors parfois il y en a qui ont des fêtes de fin d'année ou des fêtes de début d'année en septembre ou des pèlerinages en montagne. Enfin, autant d'occasions à cultiver cette vie fraternelle entre nous. Même si on peut ne pas être d'accord entre nous sur des questions politiques, il faut vraiment cultiver ça. Hein, voyez. Donc voilà l'invitation que j'ai faite aux prêtres qui étaient réunis au Mont-Dauphin. Oui.
Alors nous allons maintenant aborder un autre sujet, Monseigneur, notamment sur les levées de fonds à Briançon et au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot.
Alors c'est des bonnes nouvelles, ça fait beaucoup de travail pour le service communication, puisqu'elle a dû rajouter 2 levées de fonds en plus de la levée de fonds qui était pour les prêtres aînés, il me semble, la dernière. Donc des recherches de ressources, de fonds, des appels aux donateurs. En fait, ce sont des dossiers qui arrivent à l'aboutissement. Donc on peut prendre un peu de temps sur chacun.
À Briançon.
Alors à Briançon, ça c'est donc un projet qui a plus de 10 ans en fait. Il y avait eu un premier projet qui avait été refusé à l'époque par les paroissiens, notamment parce qu'ils mangeaient une bonne partie du terrain vert, quoi, hein, de Grand Pré. Donc c'est à Sainte-Catherine en bas. Hein. Et là, le nouveau projet, il a été relancé parce qu'il y a eu 2 legs, dont un très important, qui rend possible les choses en réalité. Et donc, on a relancé les choses. Ils ont fait de manière astucieuse une belle équipe de paroissiens avec des professionnels qui ont travaillé bénévolement aussi, puis qui après ont travaillé professionnellement comme architectes. Donc, le projet est assez enthousiasmant. Donc, il sera sur le site internet du diocèse et celui de la paroisse de Briançon d'ici quelques temps, là. En gros, c'est de construire une nouvelle salle paroissiale sur le parvis de l'église Sainte-Catherine, sur la droite, en gros, entre le parvis et le presbytère, sur la droite de Sainte-Catherine, un peu en bien. Enfin, le projet est vraiment astucieux. À la place du garage du presbytère de Sainte-Catherine, qui sert de salle de réunion un peu pourrie pour l'instant à l'intérieur, d'en faire une chapelle d'hiver, voilà, qui pourra avoir presque une trentaine de personnes, on va voir. Et puis, vous savez, au fond du terrain, il y a 2 préfabriqués, enfin, qui ne sont pas des préfats récents, qui datent d'entre-deux-guerres, hein, mais qui sont à refaire. L'idée, c'est d'en garder un des 2, de faire l'autre simplement en pré-eau, pour mettre à l'abri aussi, parce que vous savez que le site de Sainte-Catherine accueille aussi régulièrement des mineurs non accompagnés quand il y en a trop plein en terrasse. Et là, on se dit, voilà, c'est un lieu pour en mettre une tente en dessous, déjà qui elle-même sera à l'abri de la neige, parce qu'on avait eu des soucis avec une grande tente qui avait pris la neige. Voilà, donc c'est aussi, ça fait partie aussi de ce rôle de solidarité, hein, de la paroisse de Briançon. Et donc, ils l'ont intégré vraiment dans leur demande, comme ils ont intégré dans la réfection totale du presbytère aussi, où il y aura des salles de réunion, mais il y aura aussi une pièce pour un accueil, soit d'un prêtre de passage, mais soit aussi un SDF éventuellement. Voyez. Et donc, c'est ce rôle social aussi des paroisses qui me semble important. On pense toujours au bon samaritain, hein, l'accueil du bon samaritain. Voilà pour Briançon, donc c'est un très beau projet, qui en plus a un petit côté laudato aussi, écolo, environnement, parce que l'architecte, qui est celui qui a fait aussi la Maison de Marthe, est un architecte qui s'est un peu spécialisé dans le réemploi des différentes choses. Il nous a proposé, par exemple, pour les poutres, de prendre des poutres de réemploi, enfin un certain nombre de choses comme ça. D'abord, ça fait des économies, mais aussi, ça utilise moins de matières premières, quoi. Donc c'est bon pour l'environnement. Voilà, voilà pour Briançon, qui est un beau projet. Donc j'invite les auditeurs qui veulent le soutenir, eh bien, dès que ça sera en ligne, eh bien, à nous faire des dons pour la paroisse de Briançon. Ouais.
Et autre projet, c'est au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot.
Alors, au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, donc je ne sais plus trop où on en était avec les auditeurs, si j'avais annoncé un peu les choses. En tout cas, il y a une année, j'avais pris la décision de transformer la troisième tranche des travaux. C'est le lot 2025, on n'arrête pas de transformer les choses au fur et à mesure que les choses s'affinent, si vous voulez. On n'a pas forcément la science infuse dès le début, quoi. Les choses s'affinent. Et là, la tranche qui était prévue en troisième tranche, parce que la première tranche, c'était le centre d'accueil des pèlerins et la grande salle. La deuxième tranche, c'est la chaufferie bois qui est en fonctionnement. Et la troisième tranche, c'était normalement l'agrandissement de la basilique par le transept droit, histoire de pouvoir mettre à l'abri 200 personnes en plus dans l'église. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui, comme pendant le Covid, on a mis le système vidéo, on pouvait mettre à l'abri les gens dans la grande salle qui vient d'être rénovée. Ils sont dans des bonnes conditions, on va leur porter la communion, puis après, dans la basilique pour prier. Donc, ils sont contents. Et d'autre part, ça a divisé un peu les pèlerins, la municipalité là-dessus. Et donc, voilà, si on peut faire autrement qu'ils rassemblent, c'est toujours mieux. Et finalement, on n'a pas besoin de faire cette dépense, quoi. On s'est rendu compte de ça, donc on ne va pas la faire. Mais à la place, pour économiser, c'est la bonne nouvelle, parce qu'au début, on me disait que ce n'était pas possible. Et puis après, on m'a dit, mais si, c'est possible finalement. C'est de couvrir le grand podium, de refaire le grand podium, de travailler le grand podium et de faire une couverture dessus qui sera pérenne. Alors, c'est une zone naturelle et dans une zone naturelle, on a le droit de faire du couvert, mais ouvert sur les côtés. On ne peut pas faire une salle fermée, on peut faire un toit si vous voulez. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Le projet des architectes aussi est assez enthousiasmant, assez joli. Je vais mettre des vues d'un peu partout, d'en haut, d'en bas, parce que je voulais voir que ça ne prenne pas trop de place dans le paysage en même temps. Et le projet est assez enthousiasmant. Donc, on va faire la communication cet été pour que les pèlerins qui viendront cet été puissent commencer à donner. Mais nos auditeurs aussi, vous verrez apparaître ça sur le site internet du diocèse et celui du Lot aussi.
Alors, on peut relier justement ce projet à la venue de Monseigneur Bustillo qui va faire une retraite pour les prêtres.
Oui, voilà. Alors c'est une retraite c'est une innovation pour le sanctuaire de proposer une retraite sacerdotale pour les prêtres en fonction ou en retraite, mais peu importe. Et le recteur a eu du flair parce qu'il a demandé à Monseigneur Bustillo avant qu'il soit nommé cardinal. Donc, ça fait un peu plus de communication maintenant qu'il est cardinal. Et il y a effectivement, je crois, depuis entre 50 ou 60 prêtres inscrits. Donc, c'est une belle retraite. Donc, ça démarre la semaine prochaine. Hein. Et enfin, une semaine prochaine, je crois. Et donc, c'est voilà, très belle retraite prêchée par le cardinal Bustillo. C'est vrai, il a un vrai charisme de parole. Hein, un vrai charisme de parole. Et donc, s'il y a des prêtres qui m'écoutent ou des amis de prêtres qui peuvent inviter leurs amis à monter au Lot, ça montre aussi que le Lot n'est pas seulement pour les Hautes-Alpes, mais plus largement pour toute la province et au-delà même de la province.
C'est ce que j'allais vous amener à dire, Monseigneur.
D'arriver à couvrir le grand podium, si vous voulez, de réhabiliter le grand podium, refaire aussi en dessous des toilettes, des loges, enfin des vestiaires, etc., ça pourra permettre aussi d'avoir des activités pour la communauté de communes, plus largement pour le département. Ça fera un lieu aussi d'événements pour le département. Et c'est aussi ça qu'on souhaite que ce lieu vive aussi. Parce que derrière, ça fait aussi de la com pour le sanctuaire et donc pour une évangélisation, quoi.
Alors, nous allons aborder le sujet du projet de loi sur la fin de vie. On sait qu'avec la dissolution de l'Assemblée nationale, ce projet est un peu en suspension.
Alors, voilà. Oui, il est qu'en suspension, a priori.
Oui.
Parce que la députée actuelle a annoncé que c'était son objectif, si elle était réélue, de le faire reprendre. Après, il y a un autre candidat, semble-t-il, d'après ce qu'on m'a dit, qui, lui, est plutôt pour accompagner que tuer. Mais si beaucoup demandent, donc voilà, donc c'est pas parfait non plus, c'est un peu mieux. Voilà. Bon, bref. En tout cas, c'est sans doute effectivement que reporter, malheureusement. Et la Société française d'accompagnement des soins palliatifs a demandé à ce qu'on se remobilise là-dessus. Donc on va reprendre aussi tout à l'heure, si vous voulez bien, les questions qui avaient été préparées par la conférence des évêques. Et vous trouverez sur le site du diocèse aussi ce texte de l'ASFAP, la Société française d'accompagnement des soins palliatifs. Hein. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est que finalement, leur congrès, ils ont lancé ça à l'occasion de leur congrès qui était mi-juin. Ils ont dit finalement, c'était un congrès du répit et de la remobilisation générale. En fait, ça redonne du courage à tout le monde, et notamment des médecins, de plus en plus de médecins qui s'élèvent contre le projet tel qu'il était. Quoi. Vous voyez. Donc, tout n'est pas perdu. Levons-nous et formons-nous sur ce sujet. Quoi.
Alors, on va reprendre le texte du projet de loi et chaque semaine, nous développons trois questions. Et la première question de cette semaine, qu'est-ce que les soins palliatifs et pourquoi les promouvoir, Monseigneur ?
Alors, voilà la définition des soins palliatifs. Par soins palliatifs, on entend l'ensemble des traitements et soins qui s'adressent à une personne atteinte d'une maladie grave et incurable, pour laquelle une guérison de la maladie n'est plus à envisager. Donc il faut une maladie grave et incurable, et pour laquelle il n'y a plus de guérison, c'est ça que ça veut dire incurable, il n'y a pas de guérison possible. Donc c'est une prise en charge à la fois du corps, de la vie relationnelle, donc la vie familiale, etc., de l'entourage des malades, mais aussi de la vie spirituelle du malade. Et les aumôniers ont accès pour aider les malades à vivre leur vie spirituelle. Et donc, les soins palliatifs s'adressent à tous. Il y a une loi, la loi de 99 disait que chaque citoyen doit y avoir accès, quel que soit son lieu de vie. 99, on est 25 ans après, plus de 25 ans, 25 ans. Et ben, il y a encore 21 départements en France qui n'ont pas ça. Alors, l'actuel gouvernement nous fait doucement rigoler, nous mène en bateau, en fait, quand il nous dit qu'ils vont développer les soins palliatifs, parce que les millions qu'ils ont prévus vont financer surtout les maisons pour mourir et pas les maisons pour accompagner. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on souhaite vraiment, c'est le développement des soins palliatifs. Voyez. Et puis.
Autre question peut-être ? Oui. Pourquoi demander à distinguer les soins palliatifs et l'aide active à mourir ?
Alors, en fait, il y a une incompatibilité, et c'est là le piège, et je dirais le mensonge de cette loi, de ce projet de loi, c'est d'inclure les soins palliatifs dans une aide à mourir. Les soins palliatifs ne sont pas une aide à mourir, mais une aide à vivre, et à vivre pleinement ces derniers moments de la vie, ce que j'appelle moi le sommet de la vie et pas la fin de vie. Vous voyez, mélanger les deux, c'est dénaturer le soin. Faire une piqûre pour faire mourir, c'est la peine de mort, c'est pas un soin. Et donc, avoir un seul projet de loi, surtout, met les parlementaires devant la difficulté de soutenir les soins palliatifs tout en acceptant l'aide à mourir. Ça les coince, si vous voulez. Oui. Ou bien de s'y opposer et de ce fait de refuser les dispositions relatives aux soins palliatifs. Oui. Et donc il faut en réalité deux lois. Alors d'autres pays ont fait ça. Le Luxembourg, par exemple, a une loi relative aux soins palliatifs en 2009. Voyez, et puis une euthanasie également en 2009. Voyez, avec des conditions, etc. Donc deux lois. Donc le minimum, c'est de faire deux lois. Deux lois, c'est aussi pour respecter la conscience des parlementaires là-dessus.
Et troisième question.
On verra ce qui reviendra, mais je crains que ça soit qu'une seule loi, parce que c'est le piège tendu par le gouvernement. Quoi.
Quelle dérive, quelle limite de l'aide à mourir, Monseigneur ?
En fait, on l'a vu dans les premières semaines du débat à l'Assemblée nationale, puisqu'on a fait sauter l'Assemblée nationale, juste avant la dissolution, a fait sauter les délais. Ça devait être court ou moyen terme, c'était marqué. Alors ça, c'est déjà difficile à dire, mais au moins, il y avait un délai. Maintenant, il n'y a plus de délai du tout. Voilà, donc fin de vie, bof, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et puis deuxième chose, ça a été ouvert très largement à ce qu'ils appellent les douleurs psychiques. Alors, excusez-moi, mais on vit tous des douleurs psychiques, quoi. Que ce soit maladie, deuil, problème de boulot, problème relationnel, problème de couple, etc., quoi. Des douleurs psychiques. Et vous savez, par exemple, que la Belgique a euthanasié une personne qui a été victime de l'attentat du Bataclan. Elle s'en est sortie et elle a été tuée après. Enfin, je veux dire, on est dans la monstruosité, tout ça, au lieu de l'accompagner, de l'aider à surmonter ce traumatisme, etc. Voilà, bref. Donc, en fait, les limites qu'on met, elles sautent un jour ou l'autre. Et là, ce qui est remarquable, enfin, ce qui est épouvantable, c'est qu'elles ont sauté pendant la discussion parlementaire elle-même. Et puis, l'autre chose, quand même, c'est que la demande des morts, en fait, quand la demande de mort des personnes âgées, elle vient uniquement parce qu'elles se sentent un poids pour leur entourage. Ça, c'est ce que nous disent tous les médecins de soins palliatifs. Et quand, avec les soins humains qui sont donnés aussi, l'attention à la famille, elles sentent que ce ne sont plus un poids, cette demande de mourir disparaît complètement. Voyez. Et donc, il y a vraiment ça, et surtout qu'on se rappelle que dans le projet, alors même si ça avait été refusé pour le coup, il était prévu si un membre de la famille pouvait faire l'injection létale, l'injection de mort. Donc imaginez le traumatisme pour la personne elle-même, de la famille. Et puis quelle tentation aussi, tentation économique, tentation des héritages, tentation, etc. Parce qu'on a bien conscience que c'est lourd, parce qu'aujourd'hui, ce sont des personnes âgées qui s'occupent des personnes très âgées, donc c'est lourd pour eux, naturellement. Vous voyez, mais quelle tentation. Et quelle tentation pour la société. Les Québécois ont été clairs, hein. Ils ont carrément fait les calculs, combien l'euthanasie économisait en soins, voilà, ils ont fait les calculs. Donc derrière, il y a aussi, en fait, l'ultralibéralisme, hein, qui peut pas être chrétien, quoi. C'est d'abord la personne en premier, c'est la dignité de la personne qu'on met en premier. Voilà, donc au début, on met toujours des barrières, vous voyez, puis petit à petit, et même là, pendant la discussion, les barrières sautent. Et puis après, comme en Belgique, c'est ouvert à tout le monde, y compris aux mineurs. Vous voyez. Donc, je prends le pari, la bouteille de champagne, si vous voulez, que ça finira par arriver en France, si on vote une loi sur l'euthanasie, que ces règles-là seront sautées.
Ah, d'accord. Alors, nous allons nous pencher un petit peu sur l'été et... peut-être commencer par un petit peu plus loin. L'été, il y a des pèlerinages, mais on peut parler du pèlerinage diocésain du Rosaire en octobre, Monseigneur.
Oui, c'est le grand pèlerinage diocésain à Lourdes. Hein, donc je vous invite vraiment, chers auditeurs, à venir. Que vous soyez en pleine forme, que vous soyez un peu diminué, ayez besoin d'aller avec l'hospitalité. Vous savez qu'on a un ou deux bus hôpital, enfin deux bus qu'on appelle ça sanitaires. Hein, on peut même emmener des personnes couchées, si vous voulez. Et il y a des médecins dedans, des infirmières, donc on a tout le personnel pour ça. Donc je le dis aussi aux familles qui ont les parents, qui aiment bien aller à Lourdes, puis qui ne peuvent plus parce qu'ils sont malades. Mais en fait, si, ils peuvent, tout est prévu à Lourdes pour cela. Il y a des accueils de malades, ce sont des espèces d'hôpitaux, si vous voulez, qui sont super modernes, qui ont été complètement refaits il y a quelques années, qui sont juste à côté de la grotte, hein, donc c'est formidable. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous pouvez les accompagner, c'est encore mieux, sinon il y a aussi les hospitaliers. Et ça, c'est le troisième moyen de venir à Lourdes. On peut y venir comme personne malade, on va dire, on peut y venir comme personne valide, mais on peut y venir aussi comme hospitalier. Et on reçoit tellement en donnant, quoi. Voilà. Donc venez recevoir en donnant un peu de votre temps auprès des personnes malades, quoi. Donc c'est début octobre, et moi j'y vais tous les deux ans, mais j'y vais en entier, en bus, etc. Et donc c'est l'année où je vais à Lourdes, là.
Donc, il faut s'inscrire auprès du...
On peut déjà s'inscrire, voilà. Vous trouvez les infos sur le site du diocèse ou du service des pèlerinages. Ouais.
Alors, pour parler des pèlerinages, Monseigneur, de nombreux pèlerinages sur le diocèse en période estivale.
Je vais vous donner un exemple. La paroisse d'Embrun a calculé, ils ont plus de 50 pèlerinages de montagne cet été sur la paroisse d'Embrun.
Alors, comment on peut s'adresser aux touristes qui viennent sur notre diocèse? Comment peut-on faire pour connaître tous ces pèlerinages?
C'est le travail du service communication qui a fait un bel article là-dessus sur les pèlerinages en montagne. Hein. Et donc, vous pouvez trouver toutes ces dates sur le site du diocèse ou les sites de chacune des paroisses où vous venez en vacances aussi. Hein.
Et vous suivez certains pèlerinages, et notamment on peut parler du pèlerinage à pied jusqu'à la chapelle Saint-Sixte à Brézier.
Oui, alors le curé m'a dit que c'était sans doute le plus vieux pèlerinage, j'en sais rien. Voilà, c'est une petite grimpette que j'aurai le plaisir à faire. Je n'ai plus la date
en
tête.
Au mois d'août, le 11 août.
Au mois d'août, là. Mais j'ai beaucoup d'autres pèlerinages. Par exemple, là, dimanche qui vient, j'espère qu'il va faire beau, c'est la chapelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, ça y est, j'ai perdu le nom, qui est au-dessus de... Belle Saint-Pierre, je crois. Donc c'est pour ça que c'est le dimanche le plus proche de la Saint-Pierre, qui est demain, au-dessus de Châteauroux-les-Alpes. J'ai déjà fait un pèlerinage au-dessus de la Saulce. Voilà, donc il y a à la fois des pèlerinages, vous voyez, et puis des randonnées, pour me faire plaisir, les grimpettes au sommet, là. Mais j'ai aussi, par exemple, je vais dans le Kéra aussi, le 16 août, je crois, pour l'alpage de Furfante. Je vais aussi à Monnetier-les-Bains. Fin août aussi, enfin voilà, je vais dans différents endroits, d'une part pour aider les curés, mais aussi, ça me fait plaisir aussi de rejoindre les vacanciers, de marcher avec eux et de prier avec eux.
Donc on peut rencontrer notre évêque sur des pèlerinages, voilà. On peut parler du spectacle de Monseigneur Bienvenue de Miolis, à la fois au Barthéou et au Lot.
Alors, c'est un spectacle qui est monté par le diocèse de Digne, puisque c'est un évêque de Digne qui a aussi été évêque de Gap à un moment où le diocèse de Gap avait été rattaché à l'évêché de Digne. Et c'est un évêque dont la cause de béatification est engagée. Donc, on espère qu'un jour, il sera déclaré saint. Il est un peu connu en littérature parce qu'il a inspiré Victor Hugo pour le personnage de l'évêque avec Jean Valjean, quoi. Et voilà, donc une belle figure d'évêque. Donc il y aura deux représentations, 6 juillet au Barthéou, qui est la maison diocésaine de Digne, et puis le 19 juillet au sanctuaire Notre-Dame du Lot. Voilà, donc vous pouvez monter au Lot le 19 juillet pour ce spectacle qui doit être le soir, j'imagine.
Il est temps de se pencher sur l'enseignement, Monseigneur, avec le texte du Vatican sur la dignité humaine.
Alors, on arrive à... Vous savez qu'on est dans le quatrième chapitre, qui est le chapitre un peu plus concret. Les trois premiers chapitres sont un peu plus théologiques, sur qu'est-ce qu'est la dignité humaine, au niveau simplement civil, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi dans la Bible, dans le magistère des papes, etc. Et là, on est dans les chapitres, dans le quatrième et dernier chapitre, qui est le plus pratique, où il y a une douzaine d'atteintes à la dignité humaine. Et on est au paragraphe 40 sur le migrant. Vous voyez ? Et là, le pape, pas le pape, pardon, c'est le dicaster pour la doctrine de la foi qui nous dit, au paragraphe 40, « Les migrants sont parmi les premières victimes de multiples formes de pauvreté. » Et là, elle détaille plusieurs choses. D'abord, leur dignité est bafouée dans leur propre pays, parce que s'ils sont obligés de migrer, c'est bien qu'il y ait un problème dans leur propre pays, c'est pas par plaisir. Hein. Deuxièmement, leur vie même est mise en danger. Hein, parce qu'ils n'ont plus, et puis troisièmement, ils n'ont plus les moyens de fonder une famille, de travailler ou se nourrir. Et quatrièmement, arrivés dans les pays qui devraient pour les accueillir, ben c'est aussi dans les pays, ils ne sont pas jugés assez dignes pour participer à la vie sociale. Vous voyez, on oublie qu'ils ont la même dignité intrinsèque que quiconque. Puis parfois, c'est caricatural. Ils n'ont pas le droit de travailler pendant X temps, mais pour avoir une carte de séjour, il faut présenter des fiches de paye. Enfin, j'ai vu passer des dossiers qui sont vraiment caricaturaux, quoi, avec de la mauvaise volonté de la part de certains. Quoi. Voilà, donc on leur montre tout comme pour qu'ils soient considérés comme des personnes ayant moins de valeur, moins d'importance, dotées de moins d'humanité. Et le document dit, il est donc urgent de rappeler que tout migrant est une personne humaine qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux inaliénables qui doivent être respectés par tous et en toutes circonstances. Et ça, c'est le pape Benoît XVI dans Caritas in Veritate qui dit ça. Voilà. Et les accueillir est une manière importante et significative de défendre la dignité inaliénable de chaque personne humaine, indépendamment de son origine, de sa couleur, de sa religion. Vous voyez, ça, c'est le pape François dans Fratelli Tutti. Après, on arrive au paragraphe 41 qui s'occupe de la traite des personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que la traite des personnes ? C'est un mot un peu, un vocabulaire un peu technique qui n'est pas très connu. La traite des personnes humaines doit également être considérée comme une grave violation. Elle n'est pas nouvelle, mais son développement prend des dimensions tragiques qui sautent aux yeux. Oui. Alors, par exemple, les exploiteurs et les clients à tous les niveaux devraient effectuer un sérieux examen de conscience devant eux et devant Dieu. Voilà. Donc, en gros, la traite des personnes, on va le développer. Enfin, c'est le paragraphe 42 qui le développe. Voilà, je trouve un peu les choses. Pour ces raisons, l'Église et l'humanité ne doivent pas renoncer à lutter contre les phénomènes de, et là, le détail de la traite des personnes, le commerce d'organes. Vous savez que, alors ça, c'est interdit en France, il y a certains pays où pour les pauvres, pour vivre, donnent un rein. Vous voyez, les commerces d'organes de tissu humain, d'exploitation sexuelle des enfants, c'est tout, la pédocriminalité, le travail d'esclaves, y compris la prostitution. Vous voyez, ce qui est assez intéressant dans ce texte, c'est que la prostitution est mise comme dans le travail d'esclave, hein, de l'esclavage. Vous voyez. Le trafic de drogue et d'armes, le trafic de terrorisme, de crimes internationaux organisés, etc. Vous voyez. Et donc il faut prendre plus conscience, nous dit le texte, que la traite des personnes est un crime contre l'humanité. Vous voyez. Et c'est intéressant de prendre conscience que la prostitution, bah, tout simplement... aller voir des prostituées, c'est un crime contre l'humanité, en réalité. Ça nie la dignité humaine. Oui. Et de deux manières, dit le texte, la traite défigure l'humanité de la victime en offensant sa liberté et sa dignité, et en même temps, elle déshumanise celui qui la commet, aussi celui qui commet ce crime contre l'humanité. Et on va atteindre la question des abus sexuels au paragraphe 43. Qui est bien formulé aussi. La profonde dignité inhérente à l'être humain dans la totalité de son corps et de son esprit permet également de comprendre pourquoi tout abus sexuel laisse de profondes cicatrices dans le cœur de celui qui les subit. Il se sent en effet blessé dans sa dignité humaine. Il s'agit de souffrances qui peuvent durer toute la vie et auxquelles aucun repentir ne peut porter remède. Et je peux en être témoin parce que j'accompagne aussi plusieurs personnes qui ont été victimes d'abus dans l'Église. Ce phénomène est diffus dans la société, dit le texte, mais il touche aussi l'Église et représente un sérieux obstacle à sa mission. Ah bah oui, je pense qu'une bonne partie de la crise de l'évangélisation vient de cela. D'où son engagement constant pour mettre fin à tous les types d'abus, en commençant par elle-même. Ouais, donc il n'y a pas que les abus sur mineurs, mais aussi les abus sur majeurs. Et ça, c'est le gros travail actuel de l'Église de France. Et puis après, les fois d'après, on travaillera concernant les violences contre les femmes aussi, l'avortement, la gestation pour autrui, ce qu'on appelle les mères porteuses, l'euthanasie, le suicide assisté, on reviendra
on
dessus.
On a tout un programme, monseigneur.
Et la mise au rebut des personnes handicapées.
Voilà,
oui,
on a encore à faire. Merci beaucoup, bonne période estivale.
Merci.
Et à très bientôt.
Bonnes vacances à tous.